C'est le temps maintenant de notre chronique franco-canadienne. On fait le tour des infos qui touchent la francophonie à l'extérieur du Québec avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Denis Martin.
Alors, le français s'invite dans le conflit avec les États-Unis. Que dit la francophonie canadienne?
Oui, je suis sûr que vous en avez entendu parler là, depuis samedi dernier. C'est presque le seul sujet aux nouvelles. Oui, effectivement. Puis on parle du français, mais là, on voulait voir du côté de la francophonie canadienne qu'est-ce qu'on en dit. Puis pour l'instant, c'est un peu difficile d'obtenir une réponse claire parce qu'on cherche encore à démêler ce qui a vraiment été dit entre le Canada et les États-Unis. Là, je suis en train de lire un texte du Journal de Montréal, justement, qui tentait de démêler, puis on ne sait pas encore qui dit vrai. Puis d'après ce qu'on peut voir, les critiques américaines concernent surtout les dispositions au Québec, quoique la loi sur la découvrabilité au Canada peut entrer là-dedans aussi. Donc, malgré cela, il y a la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy, qui, elle, se dit heureuse que le Canada ait quitté la table de négociation. S'il y avait ce genre de demande qui venait des États-Unis, elle dit qu'il faut toujours saluer quand les politiciens se lèvent pour défendre le français, puis c'est ce qu'elle fait. On a aussi parlé de notre côté à Franco-Presse avec le professeur de politique de politique publique de l'Université d'Ottawa qui s'inquiète de ce qu'il estime être une stratégie du gouvernement canadien qui vise à utiliser le français pour gagner des points, surtout au Québec, parce que on rappelle que une des premières fois qu'il en a parlé, c'était en présence de la première ministre, Christine Fréchette. Selon le professeur Charles-Étienne Baudry, ça pourrait se retourner contre le Canada si Donald Trump trouver une façon d'instrumentaliser cette critique-là, un peu comme il a tenté de faire hier avec son message où il disait qu'il aimait les francophones du Canada, qui n'a pas convaincu tout le monde, d'après ce qu'on peut voir, mais c'est un peu ce que voulait dire M. Baudry. On se demande aussi si ça ne va pas faire changer d'idée le gouvernement et qui pourrait permettre au CRTC de revenir avec sa demande de contribution de 15% des demande aux plateformes de diffusion américaines en ligne qui pourraient contribuer à la production de contenu canadien. Encore ici, Charles-Étienne Baudry croit que ce ne serait pas une bonne idée de revenir sur cette décision-là. On se rappelle qu'au début de l'été, le gouvernement a dit non, on n'ira pas de l'avant, on va augmenter notre investissement en culture avec les impôts à la place. Mais il dit quand même peut-être qu'on pourrait revenir aux 5% qu'il y avait avant ou trouver une autre façon de promouvoir le contenu canadien, un peu comme ce qui se fait en Europe.
Oui, et c'est difficile de départir le vrai du faux quand ce sont des déclarations de Donald Trump, parce qu'un jour il dit une chose et le lendemain il dit exactement le contraire.
Exactement.
Et puis là, il a donné une entrevue à CNN dans laquelle il dit que c'est lui qui a amené les dernières demandes du gouvernement américain. Alors, quoi croire, c'est compliqué tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'on continue. La ville régionale de Cap-Acadie lance l'initiative « Je parle français », ça sort de l'Acadie Nouvelle.
Je vous en parlais un peu l'année dernière. Il y a eu des controverses dans différentes municipalités acadiennes du Nouveau-Brunswick à propos de règlements sur l'affichage du français. Parfois, la ville essayait de passer un règlement pour mettre plus de l'avant le français dans l'affichage commercial, puis certains commerçants et résidents s'insurgeaient contre ces demandes-là. Cap-Acadie faisait partie des villes qui ont établi des règlements, mais de leur côté, ça s'est mieux passé. On n'a pas trop entendu de plaintes. Mais après avoir adopté ce règlement-là, ils voulaient aller un peu plus loin puis encourager vraiment la promotion des services en français dans les commerces. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont préparé des macarons où c'est écrit « Je parle français » et ils invitent les commerçants de la ville à en demander pour les donner à leurs employés qui parlent français. Apparemment, la participation est très bonne. Là, c'est une bonne proportion des commerces de la ville qui ont demandé des macarons. Puis, pour l'instant, il n'y a pas de réaction négative de personne. Puis, il y a même plutôt eu des commentaires positifs au cours de l'été venant aussi bien des résidents que des touristes qui étaient de passage à Cap-Acadie. De son côté, le président fondateur du Cercle acadien de la langue française, Mathieu Gérard Casey, lui félicite la ville. Il souligne par contre qu'on pourrait considérer que Cap-Acadie a vraiment réussi quand même les endroits où il est présentement difficile de se faire servir en français commenceront à le faire. Il cite notamment un Tim Hortons de Cap-Acadie en exemple. Puis il note toutefois quand même que Cap-Acadie était déjà une ville où l'affichage en français était déjà prédominant face à l'anglais. puis que c'était déjà une bonne citoyenne, une bonne joueuse en matière d'affichage en français, mais il est quand même content de voir que ça se passe bien.
Et puis, dans le droit, on parle des enseignants de l'Ontario qui retourneront à l'école sans contrat de travail.
Au mois de juin, les cinq syndicats d'enseignants de l'Ontario ont envoyé un avis de convocation au gouvernement afin de négocier le prochain contrat de travail parce que le contrat actuel finit dans quelques jours, le 31 août. La réponse avait d'abord été positive, mais tout au cours de l'été, il n'y a rien qui a été fait. Apparemment parce que ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la forme que vont prendre les négociations, c'est-à-dire quelle table, quelle section va discuter de quelles questions dans le contrat de travail, là. Donc, comment on se répartit la tâche entre les différentes unités de négociation. Le syndicat des enseignants, lui, rappelle que le ministre de l'Éducation, Paul Calandra, se montre très hostile envers les enseignants et les conseils scolaires depuis son entrée en poste. Il agit un peu comme s'il y avait toujours le dernier mot en éducation, puis qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il s'en est d'ailleurs donné quelques-uns de plus en passant des lois. Les syndicats ont demandé à la Commission des relations de travail de l'Ontario de régler la question, là, donc de décider qui va traiter quoi. Mais le processus pourrait être long, puis prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Puis, à travers de ça, il y a l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens qui a besoin que les démarches se déroulent en français, qu'il y ait donc une traduction. On est un peu inquiet que ça ralentisse encore plus les choses. Les enseignants vont donc entrer au travail quand même en septembre, mais sans contrat de travail, mais malgré ça, il n'y a pas de menace de grève pour l'instant.
Et toujours dans le droit, un record Guinness battu dans l'Est ontarien.
Vous en avez parlé il y a quelques semaines, puis vous l'avez peut-être vu ailleurs parce que ça a passé dans d'autres médias, même québécois, que j'ai vu. Je vous annonce donc que l'agriculteur François Latour a réussi son pari de battre le record Guinness du plus grand nombre de charrues agricoles fonctionnant en même temps. C'est arrivé samedi, il a réussi à battre l'ancien record qu'il avait établi au Manitoba en 2010, où il y avait 66 versoirs qui avaient labouré un champ en même temps. Cette fois-ci, M. Latour et ses collaborateurs ont tiré leur charrue qui mesurait 200 pieds de long, qui contenait 83 versoirs, qui pesait 13 tonnes, puis ils l'ont tiré sur une distance de 200 pieds afin de faire valider le record par les juges de Guinness qui étaient présents ce jour-là. Il y avait aussi apparemment 3000 personnes qui ont été témoins du record.
Et puis, on termine avec une nouvelle qui concerne beaucoup les communautés de la diversité sexuelle et de genre, mais quand même tout le monde. Hein. Coup de tonnerre, premier monument national dédié aux personnes de LGBTQIA+.
Oui, c'est le nom de l'œuvre qui a été donné. C'est le nom qui a été donné à l'œuvre qui a été financée à partir du règlement d'un recours judiciaire contre le gouvernement canadien pour les victimes de ce qu'on a appelé la purge LGBT. Cette purge-là s'est déroulée entre 1950 et 1990. Puis pendant ces années-là, le gouvernement du Canada a mené des enquêtes, a harcelé et licencié plus de 2000 membres de la communauté 2ELGBTQI+, au sein des forces armées, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. L'ancien premier ministre Justin Trudeau était présent. Il y avait aussi la générale Jenny Carignan des forces armées. Par contre, l'absence du chef de la GRC a été remarquée par un des annonceurs, un des présentateurs lors de la journée. Puis, si vous voulez voir le monument, il est à Ottawa. Il est tout près du pont Wellington, un des ponts qui traverse à Gatineau, à l'ouest du Parlement canadien.
Grand merci, Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco-Presse. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.